deuxième axe, la place du végétal dans le vivant et ses frontières floues. Donc je raconte une petite histoire d'eux. Et après, il y a une intervention de Marc William qui est prévue ensuite. Et puis on continue à discuter de la même manière. Hein. J'ai envoyé un peu Marc en lui demandant d'essayer de tenir 10 minutes. Il va essayer, mais on le pardonnera s'il déborde un peu. Et vu qu'il a quand même souffert pour arriver ici, il faut être indulgent. Et puis de toute façon, ce qu'il va nous dire est passionnant. J'ai vu ça.
Mais batterie,
on oubliera le temps quand il parlera.
Ouais.
Alors, c'est la question que je voudrais poser au début. Je vous l'avais envoyé, on s'était posé avec Aniara. Au Yucatan, c'est qui, n'est-ce pas? Parce que qui? De qui parle-t-on? Parle-t-on d'une plante? Parle-t-on d'un animal? Parle-t-on d'un homme? Parle-t-on de champignons? Parle-t-on de bactéries? Et en fait, il y a un piment qui, au Yucatan, s'appelle qui? Mâche, c'est très amusant. Et c'est le piment le plus fort et le plus petit en même temps. Et il pousse partout. Mais il pousse partout à condition qu'on ne le plante pas. Parce que c'est un piment dont on ne peut pas planter les graines. C'est absolument impossible. Il faut éventuellement le planter tout entier. Je n'ai pas encore fait l'essai, mais ce n'est pas vraiment la meilleure manière. Mais on peut éventuellement faire ça. Il ne faut surtout pas l'arroser, dit-on, parce qu'il ne pousse qu'avec l'eau de pluie. Si on l'arrose, on le tue. Donc il faut... Et la meilleure manière, en fait, c'est de laisser faire. C'est-à-dire de laisser l'oiseau manger ce piment et le chier. Hein, comme le baron perché, n'est-ce pas, de tout à l'heure. Il le chie et là, le piment, arrosé par l'eau de pluie, pousse. Donc Qui a fait pousser ce piment, qui même est ce piment, hein? Et je trouve que c'est intéressant. Est-ce que le piment est un prolongement du corps de l'oiseau? Est-ce que c'est un cadeau de Tchak, le premier ancêtre des Yucatèques? Tchak, c'est la pluie. En tout cas, c'est certainement pas une œuvre humaine, puisque l'homme ne peut pas le faire pousser. Hein? Et pourtant, c'est celui qu'il préfère. Hein? Vous posez la question à un Yucatèque, les jeunes, bah, peut-être moins maintenant, mais les anciens, moi j'ai toujours leur bouillie de maïs avec une petite mâche hic. C'est pas le piment oiseau, c'est pourtant un piment encore plus petit que celui-là. Il y a une certaine variété qui s'appelle le piment en clown, qui est une variété de mâche, mais avec plein de petites couleurs. Bon, ce serait passionnant de travailler sur les couleurs et les piments, n'est-ce pas? Mais c'est hors de notre sujet. Et alors, cette histoire m'a fait penser à une intervention d'un spécialiste. De l'Inde brahmanique, Charles Malamud, pour ceux qui éventuellement connaissent un peu, c'est un vieux monsieur qui est spécialiste de la religion indienne, qui est très amusant. Et un jour, il nous a présenté comme ça, je ne crois pas qu'il ait écrit là-dessus, mais il nous l'avait présenté par oral. Vous savez qu'en Inde, il y a 330 000 dieux, voire 330 millions de dieux, mais on peut dire aussi qu'il n'y a que trois dieux et peut-être même qu'il n'y en a qu'un seul. Bref, les Indiens sont justement complètement à même de décliner le 1 et le multiple sans forcément s'arrêter sur une catégorie ou une autre. Et peut-être le dieu le plus fascinant pour Charles Malamud, c'est un dieu qui s'appelle Ki, avec un point d'interrogation, le dieu Ki, parce que précisément le dieu Ki, c'est le dieu qui résume le plus la divinité, Ki. Hein? Qui est là? Qui vive? Hein? Qui est là? Qui suis-je? Qui vient? Qui pousse? Voilà. Donc ça c'est cette petite histoire. Et on peut aussi l'exprimer autrement. L'organisme comme être individuel n'existe pas. Hein? Donc effectivement, bon, c'est déjà Fabre qui dans son livre sur l'arbre disait que l'arbre est une société.
Hein? La plante.
Non, ce n'est pas...
C'est pas dans la plante, non?
Ah, dans la plante, tu as raison, mais dans son livre sur la plante, oui, c'est ça. Disait Fabre, celui qui
a l'entomologiste.
L'entomologiste.
Ouais, c'est leçon de botanique à mon fils aussi.
Je crois que ça s'appelle l'arbre. Enfin, on ne retrouve pas la référence. La communiquera. Et donc, l'organisme est toujours contaminé, bâtard, le métissage est la règle, la pureté n'est pas de ce monde. Alors, notre ami Célos nous a refait cette histoire avec Jamais Seul, mais c'est très ancien. Hein, et c'est très intéressant de revenir d'ailleurs hein, sur des choses anciennes, parce qu'elles sont souvent essentielles, les choses anciennes. C'est pour ça qu'on peut se demander si vraiment il s'agit d'anthropomorphisme. C'est plutôt, effectivement, je crois, des végétaux, voire du minérocentrisme. Parce que une des plantes les plus extraordinaires, on la verra demain matin, c'est la casse-pierre.
Ah oui, mais depuis qu'il l'a rencontré hier, il ne l'avait jamais vu parce que je lui ai montré.
Il l'a intégré dans son vestiaire.
Ça, c'est l'opportunisme.
Alors là, il a trouvé la casquette. Ouais, c'est ça.
C'est une blonde qui...
C'est l'auteur préféré, l'auteur français préféré du japonais.
Elle est incroyable. Si vous venez demain, c'est...
Alors, je m'étais mis aussi à méditer sur le rhizome de la vie et Gould... Notre cher Stephen G. Gould, dans ce livre L'éventail du vigan, le mythe du progrès, nous a fait un petit arbre tout à fait classique, plutôt un rhizome, enfin il a un petit côté arbre, des différentes formes de vie, n'est-ce pas? Et vous voyez, là, ce petit machin-là au bout, là, c'est les animaux, les champignons, les plantes.
On dirait un dessin de Patricia.
Et l'homme est au bout, là, il n'est même pas marqué là-dedans.
Tournez, je vais
aller. Donc, il y a les œobactéries, les archéobactéries, les eucaryotes. Et Gould explique qu'en fait, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès parce que la bactérie est toujours, de loin, la forme de vie la plus vivace, la plus multiple et dominante, y compris à l'intérieur même de toutes les autres formes.
Après, si je peux me permettre, on n'en sait rien parce que. Parce que ça, c'est les formes de vie que l'on peut observer, mais il y a plein de formes de vie qu'on n'a pas encore observées.
Tout à fait.
Et maintenant qu'on peut séquencer du génome pour pas cher, on s'aperçoit qu'il y a environ 30% des génomes qu'on trouve dans la nature qui correspondent à rien de connu.
Voilà.
Il y a une sorte de matière noire vivante.
Tout à fait.
Rien de connu, explique-moi.
Oui, pareil dans ton bide, tu as plein de trucs que tu ne peux pas cultiver et que tu peux identifier uniquement par leur génome.
Ça, en fait, on pourrait le dire de tout. C'est-à-dire, nous ne connaissons que très peu de choses. C'est pour ça que j'ai souvent tendance à dire que la science est un savoir très primitif. Et qu'un jour on en sortira, je l'espère,
la physique
pour autre chose. Mais après tout, voilà, on connaît très peu de choses.
En particulier, il y a tout le monde des virus aussi. On observe les virus qui nous font du mal, et puis il y a tout ce monde.
Après, dans tout ce mélange, c'est qu'il y a aussi très, très puissant, dans ces temps démontés du fascisme et de réaffirmation folle du couple hétérosexuel avec deux enfants bien mariés à l'église, c'est que la sexualité des plantes, si on pourrait extrapoler un peu la chose comme ça, est trans-espèce et aussi trans-élémentaire. C'est-à-dire qu'il y a des plantes qui germent avec le feu, il y a d'autres qui peuvent se reproduire grâce au vent. Ou, voilà, donc ça, c'est très perturbant pour la pensée dominante.
Oui, on se teste, parce qu'il y en a qui vivent en symbiose avec...
Dans la vie, oui.
Vivant avec des oiseaux.
Voilà, ça, c'est trans-espèce, mais elle est aussi trans-élémentaire. Voilà. Cet exemple, elle est aussi trans-élémentaire, parce qu'elle a besoin de l'eau des pluies, en particulier, et pas d'autres eaux.
Il y a une philosophie japonaise, d'ailleurs, qui remet en cause... toute pensée qui n'est pas en termes de relation et qui dit que justement l'objet n'existe pas, il n'y a pas d'objet, il n'y a que des relations. J'avais été très frappé par ce développement. La pensée orientale a davantage développé
c'est pour ça que la critique de Deleuze, je veux dire, il ne parle pas de l'ontologie des arbres, il parle de l'épistémologie, d'une forme, comment est-ce qu'on construit une pensée.
Oui.
Donc c'est peut-être une mauvaise métaphore, ce n'est qu'une métaphore. Donc en fait, il abuse de l'arbre comme métaphore, mais il ne fait pas de définition ontologique. Je pense qu'il y a une
différenciation à faire. Tu veux dire que Deleuze n'est pas jeté
contre moi, je suis d'accord.
Quand même,
il fixe quelque chose.
Des découvertes, soi-disant ontologiques, en fait, des virus C, etc., pour effectivement comparer les virus C avec justement le rhizome. Donc voilà. Donc il fait de parallèles. C'est une espèce de parallélisme impropre en tant que tel, en tant que méthode aussi. Donc je ne pense pas du tout qu'il est en train d'établir une nouvelle ontologie.
Mais même parler d'ontologie, c'est absurde. Il n'y a pas d'ontologie, le verbe être est très rare dans les langues humaines. Maintenant, il prolifère depuis quelques siècles, il est très rare.
Quelque chose qui va, je peux être avec, parce que j'étais intrigué par justement la réglementation de la plante invasive, migratoire, etc., par le service des espaces verts.
Exactement.
En tant que quelqu'un qui essaie de déconstruire la notion de ce qui est le vert.
Oui.
Ça m'intéresse beaucoup, parce qu'effectivement, c'est une réglementation normative extrêmement puissante. C'est-à-dire que réglementer d'après ce qu'il doit être vert, c'est justement le contraire. Si je dis, effectivement, la plante est verte, c'est un non-sens total, parce que c'est l'environnementalisme le plus absolu. C'est-à-dire que la plante n'est pas verte. C'est évident que la plante n'est pas verte. La plante est verte pour les animaux humains, parce que justement, le spectre, en fait, de reste
nous
de
la
perception,
voyons.
En fait, sur le plan évolutif, correspond à une espèce d'évolution de primates très chromatiques qui effectivement ont commencé à distinguer le fruit et de feuilles. Et donc, du coup, si je veux dire, ah, ça c'est la plante qui est verte, c'est comme si je disais un grand tas de plastique. Ah, éco-romo. Voilà. Ça c'est l'homme.
Éco.
Éco.
Voilà. Et c'est voilà, donc c'est on regarde le déchet de la plante, on compte la plante. Donc il y a une espèce de. Donc, du coup, en fait, de la réglementation des espaces verts, c'est effectivement l'espace normatif. Et l'espace de l'exemple des algues est certainement très intéressant. Et le groupe PERE, qu'on avait invité, qui était invité ici à l'école polytechnique, justement pour faire plusieurs pièces, est invité en ce moment aussi à Michigan, dans la résidence d'artiste Bridge, que je corrige là-bas, pour faire une pièce justement avec les algues. Et donc là-bas, on utilise
les algues
de Chlorella, la Chlorella, qui est une plante effectivement très importante parce que son étude a donné lieu à deux prix Nobel, etc. Et donc c'est une algue unicellulaire, photosynthétique, très fortement photosynthétique. Donc du coup, elle est utilisée aussi pour la séquestration de CO2, donc très populaire dans les expérimentations de photobioréacteurs pour l'absorption, pour la transformation de CO2 en masse de plantes. En biomasse. Et l'autre côté, c'est une espèce de délicatesse, c'est le superfood par excellence. Et l'autre côté, c'est la grande peste qui pollue tout le grand lac de l'Amérique du Nord. Donc en fait, il y a une espèce d'ambiguïté qui est incarnée par un seul organisme unicellulaire qui, au pluriel, est la seule espèce que, effectivement, mariée à notre bactérie, qu'on voit effectivement comme le phytoplancton de l'espace. Donc c'est super intéressant que la normativité, effectivement, sous le sigle de verre, et quelque chose de totalement absurde. Donc je me réjouis que ce soit effectivement une réglementation fasciste de service de cet espace vert. Et je pense qu'il y a vraiment une espèce d'attaque épistémologique à mener sur le front des activismes d'aujourd'hui, de s'attaquer justement à la fallacieuse métaphoricité qui incarne la métaphore du vert.
Il y a même, on peut même dire qu'elle est complètement éthocentrique. Il y a un article que j'avais lu dans ma jeunesse et qu'on a peut-être oublié, mais que tu connais certainement, qui est « Annunos Colors Categories » de Conklin. Et Conklin, Annunos Colors Categories. Les catégories des couleurs des Annunos. De Conklin. Et Conklin, c'est un des articles fondateurs des ethnosciences dans les années 60. Et Conklin avait montré que je crois que c'est les Annunos, qui justement, n'avaient que deux couleurs, le vert et une autre. Mais justement, ce n'était pas le vert. C'était que eux, ce que nous traduisons par vert, eux, c'était complètement quelque chose d'autre, qui était justement une couleur beaucoup plus diverse que ce que nous mettons dans le vert. Oui, je dois l'avoir, c'est un article. Il est assez classique. Et donc, dès qu'on travaille sur, on va dire, l'anthropologie comparée des couleurs, on s'aperçoit qu'il y a énormément de classifications différentes et que le vert est une invention récente, pour le dire rapidement. Alors, deuxième petite fable, et après on continue, mais je la fais très rapidement. Je voulais vous parler de l'ours au dos de palme. C'est un petit hybride yucatèque que l'on trouve dans les carnavals. Dans les carnavals, notamment dans le petit village, dans le gros village de Nunkini, au moment de carnaval, il y a des ours qui déferlent dans tout le village, un millier d'ours. Les gens sont persuadés d'ailleurs que c'est une création yucatèque, parce que comme ils n'ont jamais vu d'ours, ce sont des ours à peau de cerf, complètement baroques, extraordinaires. Alors je me suis aperçu en faisant des études sur les représentations carnavalesques européennes, qu'effectivement il y avait un hybride ours-cerf qui circulait dans toute l'Europe, donc ils ont repris cet hybride ours-cerf sans le savoir, probablement au XVIe siècle, mais en tout cas maintenant il est bien vivant. Et alors, il y a quelque chose qui a poussé, c'est que aujourd'hui on voit de plus en plus d'ours avec des feuilles dans le dos, soit des palmes, ce qui est le plus fréquent, voire parfois du ramon, c'est-à-dire le laloi pin, Procimum alecastrum, qui est une des plantes à la fois fourragère, mais également qui permettait de faire du pain et qui est les Mayas cultivaient en grande quantité et qui est alternatif au maïs et qui permet justement d'éviter la famine. Donc effectivement, quand j'ai demandé d'ailleurs pourquoi il y avait maintenant ces palmes, et les gens ne savaient pas répondre en fait, parce que c'est quelque chose qui est vraiment spontané, ils disaient « c'est pour être encore plus bête », ils me disaient, donc ce qui était une manière un peu rigolote de me répondre, mais c'est amusant, c'est vraiment plus bête, en français ça résonne bien, c'est-à-dire on est végétal pour être encore plus bête. Et cette palme vraiment renvoie à quelque chose de très profond, qui est l'arbre fondamental, le yashtier, le premier arbre, dont la palmier est une variante, et qui est celui qu'on plante au centre des corridas pour justement y assujettir le taureau, qui est l'animal destructeur que les Espagnols ont amené, et qui doit être justement domestiqué et assujetti au végétal. Parce que le végétal étant le maître de la forêt, c'est lui qui doit contrôler les animaux et non l'inverse. Voilà. Donc en fait, cet ours au dos de palme, quelque part, même si c'est non conscient, renvoie à cette nécessité d'assujettir l'animal au végétal, parce que c'est lui, le végétal, qui est l'ancêtre fondamental avec lequel on construit les maisons, hein, et qui est la première incarnation de la mère cosmique. Yashche, premier arbre, c'est la première incarnation de la mère cosmique, Ishbak, dame os fertile. Bon, ceux qui veulent d'autres explications, je vous entendrai. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est surtout ça, c'est ce symbole d'un premier arbre que l'on plante toujours dans la corrida. Et si vous allez dans une fête au Yucatan, vous verrez dans certaines fêtes, pas dans toutes, parce que maintenant, parfois, on introduit les taureaux directement par camion, mais on est en train de revenir quand même un petit peu à cette forme. On vous verrez un arbre planté au milieu, souvent un palmier, parfois un fromager, auquel on a attaché un taureau. Voilà. Donc, c'est ça, l'ours aux dos de palme.
La plante alternative au maïs dont tu as parlé, elle s'appelle comment ?
Brosimum alcastrum, c'est le ramon en espagnol, et en maya c'est hoche, la noix pin en français. Ouais. Et hoche veut dire trois, c'est ça, une plante féminine par excellence, c'est pour ça que c'est une aussi des incarnations des mers cosmiques, c'est un arbre.
Un arbre,
oui. Vous connaissez l'origine de la pomme ?
L'origine de la pomme ?
Oui.
Vas-y, non. Je t'en prie.
Alors il y a un documentaire réalisé par une France.
Ah, de Catherine Pax.
Oui, Catherine Pax. Mmh. Oui.
Voilà. Je travaillais avec
en
elle.
En fait, c'est hyper intéressant. Qui a été filmé, donc recherche d'un.
Ah, ça y est, je comprends pourquoi tu dis ça. Bah,
ouais, c'est quand même super. Quoi. Ouais, bah,
oui. Oui.
Bah, allez-y. Hein. Ça vous démontre.
Ah, les José.
Non, parce que j'ai vu les détails, c'est toi qui.
Moi non plus. Dans les vallées du Caucase, donc elle a été filmée, un vieux chercheur caucasien qui a, à une époque, fouillé à travers une forêt de pommiers naturels, sauvages, et il s'est intéressé à étudier cette forêt sauvage de pommiers. C'était le début des années 80-70. Hein. Mm-hmm. Début de la génétique, il a finalement déterminé qu'a priori, ils avaient dans cette vallée une pomme qui était celle qui était la plus répandue, était l'origine de la pomme, de toutes les pommes à travers le monde. C'était la base génétique de toutes les pommes. Mmh. Et donc après, on avait... Et c'est une forêt qui est dans une vallée bien spécifique qui s'appelle la vallée du paradis.
Il y a plein de serpents.
Très très belle histoire.
En fait. Dans quel pays?
Au Caucase.
C'est au Kazakhstan. C'est au Kazakhstan en fait. Kazakhstan quand même.
Ouais, le Kazakhstan.
Mais encore.
Si, si, mais attends, voilà. Justement.
Ouais. D'accord.
Pour la petite histoire, surtout, c'est qu'il a été mis au silence sous le règne soviétique. Pour une question de prédominance de l'inné sur l'acquis, une grosse polémique sur la prédominance de l'acquis sur l'inné, et lui travaillant sur des questions génétiques, en fait, bref, du coup, on lui a demandé de mettre en veilleuse ses recherches, etc. Donc il est resté pendant des années. Et puis, avec l'écroulement du bloc de l'Est et de la tombée du mur, ses recherches sont reparties. Ont pu redémarrer et puis c'est confirmé. Après, maintenant, les chercheurs comme l'INRA en France ou partout vont là-bas découvrir, ok, c'est confirmé, ah bah oui, a priori. Mais ce qui est très beau dans cette histoire et ce qui rejoint ton intervention surtout, c'est que, et j'y pensais depuis tout à l'heure en fait, puisque par rapport aux oiseaux qui chient les graines et qui provoquent la levée de dormance. Mm. On a abordé cette question qui à mon avis, est vachement intéressante. Tout point de vue différent, c'est la question de la dormance des graines et de leur levée de dormance. Aniara l'a évoqué par rapport aux différents éléments, puisqu'effectivement, chaque graine a une sorte de code, comme un code de coffre-fort, avec des questions de température, d'hydrométrie, etc.
Et de composition du sol.
Dans des cycles, dans des durées, etc., qui permettent la levée de dormance, comme le piment. Et il se trouve que la pomme de l'origine du monde, enfin l'origine des pommes, pas du tout de l'origine du monde, de la pomme de la vallée du paradis, sa levée de dormance est favorisée par les ours qui l'ont sélectionnée
Oui, c'est surtout ça, c'est que les
voilà.
ours sont sélectionnés.
C'est que les ours sont sélectionnés. Il y a des multiples sources d'origine et de pommes dans cette vallée. Mais il y en a une dominante qui est la plus grosse, la plus sucrée, la plus machin, et la plus belle. Ah, qui serait en plus peut-être la première, mais en fait, non, certainement pas la première. Mais en tout cas, une des pommes qui a été après vendue et qui a de l'essence. Et celle-là, elle était sélectionnée par les ours, dont l'ingestion protège les pépins dans leurs excréments pendant le passé de l'hiver. Mmh. Et donc, en fait, rentre pile poil dans la codification, le processus de levée de dormance qui leur permet au printemps de.
Donc, cette alliance entre l'ours et le végétal pourrait avoir des racines très anciennes. C'est ce dont je C'est ce dont je me suis aperçu. C'est-à-dire que souvent, parce que j'avais l'impression que c'était un élément maya, et pas du tout.
Mais non, mais tu parlais de ça en plus en parlant du premier arbre.
Exactement.
Oui. C'est l'arbre cosmique, l'arbre de. Bon. Mais il est très très souvent associé, enfin il est même intimement associé à la question de la montagne sacrée, la montagne cosmique. L'arbre cosmique, c'est aussi la montagne cosmique, et dans lequel on a la mythologie de l'arbre, l'ours, pardon, elle est quasiment aussi universelle. Autant que le pays est d'ours, il place l'ours comme médiateur entre la montagne sacrée et l'arbre sacré, l'arbre cosmique. Le premier arbre, la première montagne. Cette image de l'ours, et l'ours ou l'oursonne, parce qu'en fait, l'ours, après, il y a des réductions qui le mettent que chez nous, du point de vue de l'action, comme les algorithmes de YouTube nous ramènent toujours vers l'action. Hein. On oublie cette question fondamentale qui est de l'oursonne, la femelle surtout, qui je pense est plus importante que l'ours guerrier, que l'ours dans sa puissance. Mais c'est l'ours ventre, le ventre des graines, justement.
Regarde l'oursonne,
ça c'est super intéressant.
C'est ça. Mais il y avait
Julie, et puis après on donne la parole à Marc.
Oui, si tu savais des choses de plus sur.
Non, mais parce que j'ai travaillé sur la post-production de l'origine de la pomme
justement
de Catherine Pex.
Avec Catherine Pex.
Je pourrais lui demander de venir demain d'ailleurs. J'ai pas pensé à la. Mais là-dessus, ce qu'elle disait aussi, c'est que cette pomme serait en fait résistante justement à.
Ah ben oui.
Enfin, il n'y aurait pas besoin d'utiliser. Mais voilà, il n'y aurait pas besoin d'utiliser de pesticides parce qu'elle est tellement ancienne et qu'elle s'est. Donc elle est naturellement résistante aux champignons, aux mauvaises.
Mais on a un ami qui la cultive en Normandie.
Ouais.
Mais moi j'ai ça moi. Hein.
Le fait qu'il y ait eu la période communiste là, a protégé en fait cette forêt parce qu'il y a eu très peu de touristes, il y a eu très peu de ça, donc ça a protégé cette forêt je vous invite à voir le documentaire L'origine de la pomme et je pourrais lui demander de venir nous en parler parce que sur plein de points c'est passionnant cette histoire.
Elle perd de ses propriétés visiblement.
Ah, quand elle est dans un autre environnement peut-être.
Aujourd'hui, nous, la culture de la pomme, c'est une culture du greffe, de l'arboriculture.
Bah oui, c'est ça, et ça marche pas de la même façon. Et les pommiers sont immenses en fait, on n'est pas habitué à avoir des pommiers comme ça.
Mais dans la greffe, elle passe pas par le ventre de l'ours.
Moi je comprends la musique de Brassens, c'est pour ça que Brassens fait pom 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 pom. Pascal et après Pierre et ensuite
la dormance, je voulais réécouter une conférence que j'ai entendue à la fête des saints de Gérard Dusserf, qui est vraiment un des
Dusserf,
tu vois, dont je vraiment il a fait cette conférence donc à la fête des saints à Fleury-la-Montagne et c'était d'essayer de comprendre pourquoi les graines sortaient de leur dormance. T'as utilisé le terme technique, je sais pas, mais en fait à chaque fois en fait ce que l'on commence à comprendre c'est quand il y a un certain manque ou un trop plein de certains minéraux dans le sol, et c'est une des éléments qui font lever les dormances, et en fait la plante va lever pour l'extraire du sol et donc pour soigner le sol. Donc, en fait, lui, ça fait partie des gens qui ont fait un atlas de plantes bio-indicatrices, où en fait, en voyant les plantes qui poussent, il va pouvoir dire, voilà, là, il y a un excès d'azote, là, j'ai plus potassium, autre. Et il a énormément travaillé sur essayer, ça fait partie des gens qui ont beaucoup alerté sur les sols qui sont malades, parce qu'on parlait des...
Donc, qui a fait cet atlas, quoi.
Hein? Dusserf. Et sa conférence, vous donnerai le lien parce qu'elle est, vraiment. C'est quelqu'un. Et alors, quand on parlait de plantes invasives, il y en a une qui est toujours citée, qui est la renouée du Japon. Et la renouée du Japon, En fait, c'est une plante extraordinaire, une plante fourragère, une plante médicinale et une plante comestible. Et tout ça, à la fois. Et comment, en fait, elle, pour lui, elle n'est pas du tout là. Plus on va l'éradiquer, plus elle va être coriace. Donc, il faut surtout la laisser faire son travail parce qu'elle est là pour soigner le sol. On est dans les histoires de soins, tu vois. Mmh. Les plantes, elles soignent le sol. Donc, il faut surtout les laisser aller jusqu'au bout de leur procédé parce qu'elles vont ramener à la surface des choses qui sont trop enterrées ou au contraire. Donc, il ne faut pas essayer de...
Entre autres, les pionnières, c'est un thème très simple. C'est justement ce qu'on appelle les adventices. Hein. On prend des termes plus neutres. Et les pionnières, elles fabriquent des très gros feuillages très vite. Elles vont multiplier parce que comme elles ont une croissance très rapide, elles produisent très très vite une surface d'échange gazeux et de photosynthèse. Donc elles font très très rapidement, elles fabriquent de la masse biologique. Mmh. Et du coup, elles vont restituer, ça fait du fourrage, comme ce qu'on va l'utiliser dans le cadre du Polovnia, comme on l'a présenté en agroforesterie. Un fourrage très rapide pour le bétail, mais elles vont aussi refaire des sols, parce qu'elles vont fournir de l'humus, des quantités de masse biologique pour l'humus très rapidement.
Marc, donc, excuse-moi. Pierre, tu as raison, je te zappais, tu as raison. Donc Pierre et ensuite Marc.
Moi c'est très bref, et puis c'est pas du tout scientifique. Moi, vous parliez de cette pomme-là. Moi, chez moi j'ai une variété de raisins, qui est originaire de Corrèze d'ailleurs, qui est un peu, qui s'appelle l'Othello, qui a été interdit par les lobbies, certainement, tout ça, sous prétexte fallacieux qu'il contient trop d'éther. Ils ont appelé cette variété le raisin qui rend fou, alors qu'en réalité, elle n'est pas là, la réalité. Il a le privilège, ce plant, j'ai deux trahis d'Othello, tu ne le sulfates pas. Oui. Elle est, c'est jamais malade. Et c'est pour ça...
Il rend fou les lobbies.
Non, mais c'est pas rigolo. J'ai toujours l'impression qu'on se fout de ma gueule.
Non, pas du tout.
C'est moi qui ai fait une blague.
Je suis complexé avec vous parce que je sais pas si vous.
Non, mais t'inquiète pas, c'était au contraire. C'était pas du
tout.
C'est de l'Othello.
Othello.
Et plein de gens se remettent à planter de mon Othello.
Mais le Baco, s'il y en a plus.
C'est le même.
Ah, c'est le même.
Mais le petit verre d'eau qui est utilisé quand même utilisé aujourd'hui.
Le noir.
Autorisé dans le bordelais.
C'est infiniment meilleur.
C'est des plats américains.
C'est un raisin qui est rosé.
Le petit verre d'eau aussi.
Qui ne se tache pas, les feuilles ne se retournent pas, ne sont pas attaquées par les années.
C'est
une plante
qui est
très rustique. Il y en a plein qui ne poussent pas dans la vallée.
Enfin, pas pour le commerce, mais pour les marchands de cognage. De pesticides.
C'est un cousin de ce truc.
Je connaissais l'un qui était. Mais tout ce. Le noir, oui. L'américain, oui, c'est ça, c'est le noir que je connaissais qui est américain. Le petit verre d'eau,
ça, je ne connais pas en fait. Parce
que le petit verre d'eau, c'est qu'il est autorisé, mais en petite proportion, parce qu'effectivement, en grosse proportion, il est assemblé. Mais je crois qu'il est endémique.
Bon.
Okay. Marc, à toi.
Bon, alors je vais trancher un peu parce que moi j'avais préparé un petit truc comme je ne savais pas trop, je ne me connaissais pas encore. Et en plus, c'est pas mal d'avoir des images, mais je vais par contre aller. Je vais suivre. Ah, vous avez un truc ?
Il y a un vidéoprojecteur, oui.
Si ça prend une minute.
Un
adaptateur ? Ah, bah non.
Attends, je
ne
sais pas si j'ai.
Bah,
je pense que
j'ai
sorti l'image.
Ah oui, parce que
ça serait mieux parce que sinon.
Il y a des
Je l'ai, mais je l'ai pas.
C'est l'occasion de faire une pause pipi.
Voilà, c'est l'occasion de faire une pause pipi.
Tu sais, tu connais l'alcool, là ?
Oui, là, oui.
Ben, l'absinthe.
Oui. L'absinthe, j'ai lu un livre d'un type de distillation. Et pour lui, il a fait une histoire de l'absinthe, l'interdiction de l'absinthe, il a accusé d'avoir rendu fou tous les poètes, etc. C'est parce que les fabricants des pastilles,
qu'est-ce que tu fais un adaptateur ?
Oui, mais c'est un
Marc. Attends, je regarde si par hasard
sinon, tant pis, je vais mettre comme ça.
Un adaptateur,
c'est. Non, mais bon. Sinon, je me mets comme ça.
Tiens, je suis là.
Ah, bah, c'est ça, mais oui.
Il y a eu le même phénomène. Ouais.
Voilà. Non, est-ce que c'est bon?
Ah oui, c'est ça. Parce
qu'il y en a plusieurs. Hein.
Tu peux pas entendre la vérité.
En Suisse, par exemple, c'est autorisé. Mais tu vois, il y a eu quand même pendant tous les...
C'est celui-là? C'est bon. Tu vois, hein, comme quoi. Oui, parce que moi aussi, j'ai un Mac. J'ai mon Mac avec moi, et comme je l'ai ramené de la campagne, j'ai pris l'adaptateur.
Moi, je l'oublie toujours.
Moi, je le prends toujours maintenant, parce que je l'ai oublié une ou deux fois, et ça m'a manqué. Donc maintenant, je le prends toujours.
Je ne savais pas non plus si vous aviez le, un écran.
En fait, ici, c'est équipé. En matos, c'est pour ça que, voilà. À Ivry, par contre, il n'y a rien.
Il n'y a rien à Ivry.
Ivry, c'est très différent comme espace. Mais c'est tout aussi sympathique.
Non, mais c'est votre maison, Ivry.
Alors, c'est une de mes maisons. Mais en fait, c'est le lieu historique qu'a hébergé mon premier laboratoire. C'est canalisé et pratique sociale. Quand on n'avait pas de tout de crédit, d'argent. Donc, c'est assez amusant. Ça a été le siège du laboratoire. Premier laboratoire du CNRS. Maisons, oui. Voilà. Une dans le Lot qui est la maison principale.
Et pour bien être sûr, le Yucatan, c'est au Mexique.
Oui, c'est au sud du Mexique. Et une à Ivry-sur-Seine. Voilà. Voilà, et on a une quatrième maison qui là est en train de collectif.
Je ne vous connais pas, donc. Mais je sais que vous êtes très sérieux. Mais aucun. Quelle inquiétude. Non, c'était la forme. J'avais pas trop haut si je parlais. Non, mais de toute façon, je vais pas m'éterniser.
Tout est à la fois gay. Tout est à la fois gay et sérieux.
Voilà, exactement. C'est ça qui est bien.
Nous sommes au-delà du dualisme.
Ça marche comment, cette taconne?
Je pense que tu dois faire avec ta main.
Ah, avec la main.
Bon, bah, merci. Si tu veux, on peut le mettre. C'est Yann qui a donné son.
C'est moi qui ai donné le mien. Tu peux me remercier. Merci.
Merci, Michel.
C'est possible de me remercier. C'est assez rare que tu le fasses, donc j'en suis content.
Oui, ça, ouais, il a eu un mauvais.
Non, ça y est, c'est bon.
C'est moi qui avais un petit adaptateur. Tu te rends compte, ma chérie, comme c'est incroyable?
Ok, bon, bah, je vais faire vite. J'attends que tout le monde soit revenu.
Oui, il est vrai parce que tu as déclenché.
Je suis désolé, une sorte de pause.
Non, mais elle était opportune. Parce qu'à mon avis, j'avais besoin d'une petite pause. Bon. Et pour que maintenant on puisse se concentrer sur l'excellence de ta communication.
Oh, alors là, mais
je ne suis pas ironique. Je l'ai lu, moi, pour moi. Non, je trouve qu'elle est stimulante et puis surtout elle nous emmène ailleurs.
En fait, c'est ça.
C'est ça qui est intéressant.
Je me suis dit, ce qui peut être intéressant, c'est de partir vraiment de l'expérience. Après, il y a plein de choses à dire.
C'est
la diversité des approches.
Ouais. Et ça, c'est dans le savoir.
Ah, oui. Non, mais je trouve ça passionnant.
Au contraire.
Oui.
Plus rien n'est décalé.
Exactement.
Et si tu veux, ce que j'aime entre nous, c'est vrai qu'il y a une rencontre de mes dernières élections, c'est l'écoute.
C'est l'écoute,
nous sommes dans l'écoute.
Mais oui, complètement. Et c'est vrai qu'on ne trouve pas ça ailleurs.
C'est bien.
Exactement.
Moi, j'essaie d'animer un tout petit peu.
Oui, non, mais même à la limite, même qu'il y ait un brin de transgression, etc., je trouve ça.
Voilà, un
petit brin. Quoi. Ah, faut pas toucher parce que le fil.
C'est bien d'avoir un peu d'organisation, c'est ça. L'anarchie, pour moi, c'est l'organisation sans la hiérarchie.
Voilà, exactement. Ah oui, bah oui.
Et donc, moi, je suis un anarchiste militant, c'est-à-dire quelqu'un qui organise peut-être un peu trop, mais surtout sans hiérarchie. C'est pour ça que je prends la direction des événements.
C'est pour ça que je suis la chef. Je suis
anarchiste. Tu sais, c'est plus ça. Le portugais qui a fait un asile qui s'appelle le banquier anarchiste.
Quelqu'un? Non, c'est bon.
Moi,
c'est magnifique.
Bon, il manque juste.
Je vais offrir un bon frère.
Ouais.
On est
tous là. Il manque deux personnes.
Ah, il manque
allez.
Deux personnes.
Qui c'est les deux?
On regarde. Donc, José?
José, je sais pas
quoi.
Ils sont là. Au revoir, ramène le monde. On commence.
C'est parti.
Bon, alors regarde. Donc, ok, donc moi je voulais essayer d'aborder la question par l'expérience. Donc parce que effectivement, comme je vous l'ai dit, voilà, quand j'étais étudiant, donc ça date, je me suis interrogé assez rapidement sur le fait que, bah, vous voyez en haut, donc à droite, à gauche, vous avez une algue, hein, une algue géante, et à droite vous avez un axone de calmar géant. Vous avez les enregistrements, donc, à droite et à gauche, de potentiel d'action cellulaire, hein, de chaque côté. Bon, alors, évidemment, les différences qu'il y a entre les deux sont des différences vraiment d'échelle temporelle. Hein, et d'échelle, c'est l'espace et le temps, c'est-à-dire c'est l'amplitude qui change, c'est le temps. Mais sinon, les phénomènes sont exactement identiques. Bon, je vais très vite. À droite, vous avez cette magnifique arbre, hein, qui est en fait une cellule de Purkinier du cervelet. C'est une des principales cellules du cervelet. C'est un neurone avec son arbre dendritique extrêmement développé. Je trouve ça tellement magnifique parce que j'ai travaillé à Orsay sur le cervelet où j'ai fait ma thèse. Ouais. Donc effectivement. Et donc là, à droite, vous avez ces enregistrements absolument fantastiques parce que qui correspondent.
C'est quoi le cervelet?
Ah, le cervelet, c'est le petit cerveau.
D'accord, parce qu'entre les graines et les plantes, je me suis dit, c'est une nouvelle plante.
Parce qu'en fait, je travaille sur le cerveau.
Le nom botanique
du cerveau. C'est sous le cerveau, mais. Non, c'est parce que je fais un parallèle entre les deux, c'est ça qui est intéressant. Donc,
comme Mickaël d'ailleurs.
Alors, peut-être que je vais me mettre là, mais alors il faudrait que quelqu'un appuie, et puis je me mets là, peut-être que ça serait mieux, non?
Bah oui,
voilà. Il faut juste appuyer sur la. Voilà, quand je te dis quand tu dois appuyer.
Ouais, ok, sur suivant, quoi.
Donc voilà, donc là, vous avez la plante. Donc là, on est à l'échelle cellulaire. Ouais. Donc parce que c'est ça que j'ai mis qui est intéressant, c'est le rapport d'échelle. C'est-à-dire, quand on enregistre une activité vivante, biologique, on place une électrode. Hein. Il y a différents types d'électrodes, peu importe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que voit cette électrode? Ça dépend où elle est placée. Évidemment, si elle est placée au niveau d'une cellule, au niveau d'un tissu, ou au niveau du cerveau entier ou d'une plante entière, elle ne voit pas la même chose. Mais la différence qu'il y a et qui m'a frappé dès que j'avais 20 ans, c'est que en fait, au niveau du cerveau, ça c'est cerveau, hein, donc au niveau du cerveau, l'activité du cerveau entier, qui s'appelle l'électroencéphalogramme, que vous connaissez, reflète exactement l'activité de quelques neurones qui sont intégrés au niveau, au niveau par exemple, d'une structure cérébrale. Donc, c'est-à-dire que tout est corrélable, tout, de A à Z, de la cellule. Au niveau du végétal entier, moi, ce que j'ai fait, c'est ça, j'avais une plante en pot hein, sur mon bureau, je me suis dit, tac, j'ai mis des électrodes ici, là, là, j'enregistre une activité comme ça. Bon. Alors, au départ, je me suis dit, c'est des artefacts, c'est-à-dire c'est probablement non biologique, parce que ça peut être parasité par beaucoup de choses.
Ouais.
Et on va passer à la suivante, quelques années plus tard. Donc en fait, ces enregistrements qui dataient de 1992, par là, je les ai republiés récemment parce que le contexte a totalement changé. C'est-à-dire que moi, je parlais de vie de relation des plantes à cette période-là. Les gens me regardaient en disant de quoi ils parlent.
Ouais.
Enfin, vraiment, c'était une question complètement saugrenue. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, avec le contexte que je n'ai pas le temps de développer là, mais enfin, qui est parti avec ce mouvement de neurobiologie végétale, mais qui maintenant dérive. Mais il y a une chose à retenir ici, une revue qui a pignon sur rue, en ce qui concerne en sciences du végétal, c'est Signaling and Behavior. Ouais. C'est-à-dire qu'on parle de comportement, ce qui est un changement radical. C'était inenvisageable il y a 10 ans, ou 20 ans. Bon, donc je vais passer sur les résultats, mais les résultats montrent surtout qu'il y a une activité spontanée au niveau de l'ensemble du végétal et qu'on peut aussi provoquer des stimulations et que donc ça veut dire que non seulement la plante répond, ce qui n'a rien d'étonnant, hein, puisque c'est un organisme vivant comme un autre, en fait tout ça n'a rien d'étonnant. Ce qui est intéressant, c'est l'échelle, mais malheureusement je n'ai pas le temps de développer. C'est l'échelle, c'est-à-dire qu'au niveau de la plante entière, on y reviendra. Ce n'est pas la même chose. Les activités cellulaires sont tout à fait connues, sont tout à fait calibrées, etc. Mais ce type d'activité-là, encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement à quoi ça sert pour la plante. Mais on commence à avoir des idées et on commence à avoir des hypothèses. Et j'ai une publication qui est sur le feu, là, avec une équipe brésilienne, où on a une amorce de réponse, en 2018, là, donc. Bon, on passe à la suivante. Donc, si je reviens beaucoup en arrière, vous connaissez probablement cette gravure de l'ordre naturel de la Renaissance qui a été publiée dans le livre de Mancuso, qui est un spécialiste dont justement il a montré dans son film. Ce qui est intéressant ici, il ressent, il vit, il est. On voit toutes les espèces qui varient, mais le végétal n'existe pas.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Le végétal n'est pas vivant. Hein,
qu'est-ce qu'on voit? Attends, il y a quand même un arbre là.
Oui, mais il n'est pas considéré comme vivant.
Après, il écrit vivite est.
Il est.
Mais il y a quand même vivite.
Il y a non, il est, est et ensuite il y a vivite est.
Tu vois, là, au niveau de l'arbre.
Oui, mais à cette période-là, dans cette période-là, ça veut dire simplement qu'il est. Ça ne voulait pas dire qu'il est vivant.
D'accord.
Enfin, moi, en tout cas, c'est Mancuso qui l'a affirmé, donc je pense qu'il a quand même fait la biblio sérieusement.
Ouais. J'ai quand même un doute.
Bon. Une chose inanimée peut, elle est.
Donc, elle est inanimée, mais elle est.
À mon avis, si tu veux, là où il a pu confondre, mais je peux complètement planter, je donne simplement une hypothèse, c'est qu'à l'époque, tout était vivant. Et précisément, la distinction entre vivant et non vivant est apparue après. Donc lui, il rabat le tout est vivant sur le ça n'est pas vivant. Et je ne suis pas sûr qu'il ait le droit de faire ça. Bon, alors, et donc la distinction, elle n'est plus entre vivant et non vivant comme aujourd'hui, mais elle était entre vivant et sensitif.
Oui, mais c'était l'idée de chose, en fait. L'idée de chose par rapport à l'idée d'être.
Ouais, mais là.
Mais bon, on va aller à la suivante, c'est pas grave. Bon, enfin,
c'est pas grave, mais là je le suis.
On va à la suivante. Vas-y. C'est dans Brilliant Green?
Oui, c'est dans
le... Est-ce que ça...
C'est pas l'arbre de ces...
On a tous en tête, je sais pas,
c'est dans le film
à
aussi, c'est dans le film
la pyramide du vivant, il y avait les arbres tout en bas.
Ah bon, parce que moi j'ai vu l'intelligence des plantes, son bouquin.
C'est la traduction française.
C'est ça, d'accord.
Donc si tu peux aller à la suivante, justement, peut-être... Voilà, justement, je reviens à ça. Enfin, moi j'ai figuré ça par les trois d'Aristote, c'est-à-dire l'âme végétative, parce qu'il parlait d'âme aussi à ce moment-là. C'est pour ça que c'est de là que vient la confusion. Faire attention, parce que l'âme, c'était un terme générique. Donc âme végétative, âme sensitive et âme intellective. Au niveau de l'arche de Noé, alors là c'est sûr par contre au niveau de l'arche de Noé, les végétaux sont considérés comme des choses, contrairement aux animaux. Et c'est le même cas dans
Et ils ne sont pas sur l'arche.
Ils ne sont pas sur l'arche. Ouais. Voilà. Aristote pense que les plantes sont bien des êtres vivants, mais passifs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas actifs, ils ne sont pas
intéressants. Le problème là, dans cette explication, c'est qu'il prend la philosophie dans le savoir populaire.
On y reviendra, parce que sinon ça va nous bloquer. Et après, je vais très vite sur Averroès, qui lui est tout à fait intéressant, parce qu'il pense que la part végétative n'était pas séparée de la part intellective. Alors lui, il est très très en avance sur son temps, parce que maintenant on parle d'intelligence des plantes, lui, il en a parlé très tôt,
bien avant.
Mais il a tout à fait tout compris en décrivant différents niveaux sur lesquels je vais passer. Parce que,
Averroès, c'est...
Averroès, est un savant...
10e, 11e, moi j'aurais dit...
Ah, tu dis encore...
Oui, toi, t'as dit quoi, 12e?
J'ai dit 13e.
Et tu vois, c'est quand même...
Donc lui, il détecte trois niveaux. Donc un niveau où il n'y a aucune intellection, comme par exemple la position yellowmorphiste, donc la lumière par exemple n'a pas d'intellection. Et ensuite, deux autres niveaux, intellect supérieur et le nous en troisième position.
D'accord.
Alors, la diapo suivante.
Oui.
La diapo suivante. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que on connaît Darwin pour l'origine des espèces, mais il a publié un livre fondamental qui s'appelle The Power of Movement en 1880, et pas un seul livre, parce qu'on parle d'un livre. Toutes ces références sont de Darwin. Darwin avait très tôt détecté ce potentiel très important au niveau des plantes. Et un autre savant qui est le père de l'électromagnétisme, donc un physicien très connu, c'est Bose, un physicien indien, qui lui a fait un livre, The Nervous System of Plants, où effectivement, à l'époque, il se demandait s'il y avait un système nerveux, dans la mesure où on ne connaissait pas ce qu'on a connu après. Par exemple, pour la Mimosa pudica, vous connaissez l'exemple, c'est un savant indien en 1912 qui a 1926, pardon. Qui a en fait bien expliqué que c'était une hormone qui créait le mouvement chez nous. Alors, diapositive suivante. Alors, voilà, ça c'est formidable comme image, donc déjà ça permet de rêver et de voir quelles sont les différentes stratégies de communication végétale. Alors, ça vient, si vous voulez chercher, c'est Cater's New Agency sur le net, vous allez trouver sur cette image. Diapositive
suivante. Je ne comprends pas que c'est un animal aussi.
Oui, non, c'est une plante.
Non, c'est non. Non, c'est un animal.
C'est
un animal qui est mimétique de ces plantes-là.
Ah, moi j'étais sûr que c'était la plante qui mimait l'animal.
C'est un caméléon.
Ah, oui, non, c'est pas un caméléon. C'est une espèce particulière, je ne sais pas.
Ah, d'accord.
Si je peux me permettre.
Tu connais peut-être cette espèce?
Non, pas cette spécifiquement, mais c'est une sorte de phasme qui imite les feuilles.
C'est un
phasme. Les phasmes, c'est comme des.
De formes différentes.
Peut-être.
Et par contre, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a, et c'est Mancuso qui en parle justement, c'est qu'on a une tas de variétés de lianes, entre autres, qui imitent parfaitement les feuilles de l'arbre sur lequel elles grimpent, qui vont même jusqu'à imiter les épines, qu'elles n'ont pas du tout besoin, mais pour une forme de mimétisme. Et dans le cadre d'un animal, pour l'homme, il est tout à fait entendu que l'animal a des yeux, a cette capacité intellective qui lui permet d'aller vers ce mimétisme. Sauf qu'on c'est une capacité qu'on ne prêtait pas aux plantes, ça veut dire qu'elles voient. C'est Mancuso qui dit justement, ces plantes sont une sorte de preuve d'observation, de capacité d'observation, d'adaptation, parce qu'elles le font sur une durée, qui est très courte en fait, relativement aux plantes.
Oui, bien sûr.
Mais elles arrivent avec un caractère neutre.
Et puis elles vont...
Et dans la durée de quelques semaines de croissance, que ce soit en forêt tropicale, elles se transforment, elles prennent la forme de la plante sur laquelle elles poussent. Donc elles observent leur environnement, elles s'y adaptent, elles se transforment, elles se métamorphosent. Hyper puissant, quoi.
Ouais.
Bon, la suivante. Alors là, bon, je vais aller assez vite. Ça, j'ai présenté ça à Cerisy parce qu'on avait un gros colloque sur la mésologie, donc qui était. Vous connaissez peut-être le je vais en parler tout à l'heure. La mésologie, c'est une discipline qui est notamment enfin, ancrée en France et au Japon aussi par Augustin Berg, un géographe orientaliste. Et qui se base sur. Je vais en parler à la fin. Hein.
D'accord.
Je vais en parler à la fin. En tout cas, moi, je présentais quelque chose sur justement les flux sensoriels d'information. Oui, la vie s'appelle les eaux. Et donc, effectivement, donc là, ce que je comparais, c'était les plantes. Alors maintenant, d'ailleurs, on parle de plantes plutôt que de végétales. Hein. On revient sur les classifications anciennes et de chlorobionte, justement, en opposition aux zoobontes, qui est justement le règne des animaux et des humains. Donc, on voit que les différences fondamentales vont très, très facilement. Hein. Au niveau des humains, on a un système centralisé et individualisé, hein, c'est clair. On a un cerveau qui centralise tout. Les plantes sont des systèmes qui sont complètement modulaires. C'est-à-dire que si vous coupez une feuille, une tige, etc., la plante repousse. 90% de récupération, de régénération. Et pluricentré, c'est-à-dire que les fonctions ne sont pas liées aux organes. Le système est divisible, évidemment, chez les végétaux, et tout à fait global, puisqu'on parle de green areas, contrairement à l'animal. Les deux sont des organismes, alors, il y en a qui parlent de sensitifs, sentients, sensibles, tout ça, ce sont des dimensions qui ont chacune des définitions très difficiles, enfin très, très claires, mais en même temps difficiles pour les spécialistes ont du mal à se mettre d'accord, par exemple, sur le terme sentient, qui a une connotation faible, au sens un sens faible et un sens fort. Chez nous, c'est vraiment un sens fort, on les sentient, alors que chez les végétaux, il y en a qui emploient également le terme. Donc ensuite, des organismes qui sont hétérotrophes et rapides, pour nous, et au contraire, autotrophes et lents, bien sûr, c'est la caractéristique du végétal, et surtout son ancrage au sol, qui fait qu'il a développé toutes ces stratégies adaptatives qu'on connaît, c'est parce qu'il est ancré au sol que justement il a développé tout ça. Et ensuite, alors maintenant, on parle de l'intelligence, je vais en parler juste après, parce que effectivement, c'est un terme qui est adapté à condition de bien le définir. Et ce sont des organismes extrêmement communicants. Donc il faut savoir de quoi on parle, en fait. Est-ce qu'il s'agit d'une évolution adaptative, tout simplement? Est-ce qu'il s'agit de conditions à minima? Est-ce qu'il s'agit de comportements intelligents? Et là, il y a des débats on est en plein dans ce débat-là aujourd'hui. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les deux sont des organismes complexes, en tout cas, c'est sûr, et sociaux, puisque... Également, par exemple, justement, Mancuso parle de systèmes de colonies, comme on parlait tout à l'heure, d'essaim et de comportements de type communautaire au niveau des plantes qu'on peut retrouver chez les animaux. Et puis, évidemment, je ne parle pas des mécanismes biologiques, parce que ça, c'est impossible, il faudrait une heure, mais les mécanismes biologiques sont très développés, que ce soit pour les stratégies de défense, de mémoire, de cognition, etc. Donc, la diapositive suivante.
C'est quoi la sessilité?
Alors, la sessilité,
les
flux sont un peu
autotrophes.
Oui, mais ça ne doit pas être ça. C'est pas ça.
C'est la
quatrième ligne, dernier mot.
Par rapport à mobilité, tu vois, dans la quatrième.
Ah oui, sessilité, c'est justement le fait qu'ils ne sont pas mobiles, enfin, qu'ils ne peuvent pas se déplacer, c'est qu'ils n'ont pas de mouvement, en fait.
Mais ils ont une capacité d'extension.
Ah oui, d'extension.
Sessilité, c'est d'extension.
C'est l'extension, oui, c'est ça.
D'où un chêne sessile, c'est un chêne qui a une. Dont les feuilles sont équipées, les glands sont équipés d'une.
Qui peut.
D'une
oui,
tige.
Par exemple, celle qui envoie des.
Sessile,
des vrilles, par exemple.
Voilà,
la
capacité.
La,
capacité.
La suivante, c'était ici.
Ah oui, pardon.
Il y a même une plante qui balance des fléchettes.
Des fléchettes?
Oui, une plante.
Ah oui, c'est vrai?
Oui.
Ah oui, c'est possible. Oui. Bon, là, justement, je vais pas détailler, mais bon, il y a énormément de mécanismes, donc de types de communication différentes, qu'elles soient bioélectriques, chimiques, hydrauliques.
Hydrauliques, c'est-à-dire par l'eau, c'est ça que tu veux dire?
Oui, par l'eau, tout à fait, par l'eau, il y a évidemment, avec des pressions qui sont différentes à l'intérieur,
ah, oui,
à l'extérieur,
d'accord.
Par
okay.
exemple, des choses comme ça. Et il y a des tissus qui sont spécialisés, sur lesquels, justement, on suspecte qu'ils pourraient porter, justement, des capacités de qui peuvent permettre aux plantes de communiquer, voire même peut-être de centraliser un certain nombre d'actions, en tout cas de mini-centraliser. Alors on parle de deux tissus principaux, le système vasculaire, justement, avec le xylème et le phloème,
ouais.
qui sont là, et également, là j'en parlerai pas, également des racines, notamment. Au niveau des racines, il y a énormément de récepteurs, une quantité de récepteurs phénoménales qui ont été détectés, et qui sont presque analogues à ce qu'on peut trouver au niveau des synapses, ouais. au niveau du cerveau, avec une communication chimique utilisant des acides aminés qui sont les mêmes, qui sont de même nature que celles qui sont utilisées dans le cerveau, qui sont dans les neurotransmetteurs.
L'actine et la myosine. Oui. Et ça a été justement une intuition de Darwin déjà.
Oui, tout à fait.
Il parlait déjà des racines. Comme l'intelligence suivante, le siège de l'intelligence végétale.
Alors, bon, là, c'est pareil, au niveau des mécanismes cellulaires, je passe, mais ce qui est très intéressant de regarder, c'est que si on regarde une cascade d'événements intracellulaires qui comprend des mécanismes enzymatiques, etc., en réponse au stress, par exemple, c'est extrêmement similaire sur un mammifère et sur une plante. Hein. Donc, les mécanismes de défense sont très similaires. Et on peut trouver comme ça des milliers d'exemples. Au niveau de la cellule, c'est complètement identique. Il y a énormément. Alors, il y a des différences fondamentales d'intérieur à l'intérieur de la membrane. Les cellules végétales ont trois membranes, contrairement aux cellules animales qui n'en ont qu'une. Je ne sais pas si j'ai le temps de parler de l'exemple du coudou, parce que c'est quand même. Vous connaissez ?
Oui.
Vous connaissez tous. Bon, oui. Alors je passe.
Ceux qui ne connaissent pas, il faut...
Bon, un des exemples de communication, vraiment, enfin, qui a remis...
Un des premiers
grands exemples, c'est qu'effectivement, il y avait une... Alors, c'était dans
un
parc en Afrique. En Afrique du Sud, vous avez constaté...
Il y a eu aux États-Unis aussi.
Ah oui, aussi. Ils ont constaté une mortalité des coudous, qui sont des grandes antilopes. Pendant 10 ou 15 ans, c'était totalement inexpliqué. Personne ne comprenait pas pourquoi il y avait cette mortalité-là. Oui, mais sans prédateurs et dans un parc où justement il n'y avait pas de prédateurs.
C'était un parc fermé.
Donc,
des grillages. Les coudous se jetaient sur les grillages. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Ils avaient pris de panique, des troupeaux de coudous se jetaient sur les grillages. Et à l'intérieur, ils mouraient, on ne comprenait pas pourquoi.
Voilà. Et puis finalement, au bout de 10 ou 15 ans, il y a des éthologues qui sont venus sur le terrain, des biologistes, etc. Ils ont découvert que c'était les plantes en fait, qui avaient fabriqué un poison. En fait, pour se défendre contre les coudous.
Qui les bouffe quand même.
Voilà. Et là, deuxième chose, ils se sont aperçus que, en plus, non seulement fabriquer un poison pour se défendre, mais en plus qu'elles émettaient une hormone volatile pour avertir les voisins.
La vitesse, hein, c'est 15 minutes.
Voilà, c'est ça. C'est de l'éthylène, en fait.
C'est le gaz porteur.
Le gaz porteur, oui, c'est ça. Donc là, ils se sont dit, quand même, il y a des stress. Alors là, le fait qu'il y avait de la mortalité s'explique parce que les animaux étaient dans un parc et donc, en fait, ils ne pouvaient pas s'échapper. C'est-à-dire que dans le milieu naturel, c'est évident que s'il y avait quelques animaux qui
étaient morts, ils
auraient très vite. Et donc maintenant, ils contournent le vent. Les animaux contournent le vent. Ils ont compris qu'il y avait un danger.
Oui, ils s'en vont. Mais là, ils ne pouvaient pas fuir. Hein.
Non, mais là, ils ne pouvaient pas. C'est pour ça qu'ils se jetaient contre le grillage.
Ils se jetaient contre le grillage.
Il y a le vent qui arrivait derrière le grillage pour sortir du parc. Parce qu'il faut qu'on aille vers le vent. Sinon, on ne peut plus bouffer. Quoi. Puis voilà, affamé.
La suivante.
Derrière, c'est poison.
Et la suivante, bon, mais j'ai mis ça parce que je trouve ça assez intéressant. Alors, vous en parliez peut-être un peu tout à l'heure, c'est la stratégie du chêne ou du roseau qui est assez intéressante parce que voilà, les plantes face au vent, justement, on parle du vent, elles peuvent adopter soit la stratégie chêne, donc c'est-à-dire ou roseau, donc qui va être soit éviter le vent, c'est-à-dire donc avec des configurations aérodynamiques qui sont totalement, on voit bien ces arbres qui sont complètement torturés des fois, etc. Ou au contraire, tolérer le vent et l'utiliser en quelque sorte donc dans l'autre sens. Donc soit il y a une grande résistance, soit il y a un ancrage. Mais donc voilà, et là, contrairement à la morale de la fable, donc les deux stratégies peuvent être efficaces et coexister en fonction de l'environnement.
On dirait un tableau de Delacroix.
C'est un tableau, de toute façon. Ouais. C'est un tableau, je ne sais pas si c'est de Delacroix, mais... oui, c'est possible. Donc on en vient à la question là, qui était posée dans un magazine scientifique, dans Science et Vie, qui a fait pas mal de... Donc est-ce que, une question qui paraissait totalement saugrenue il y a une vingtaine d'années, c'est... est-ce qu'il y a une des formes d'intelligence? C'est surtout ça la vraie question en fait. La vraie question aujourd'hui, c'est pas de les animaux, les végétaux sont reconnus comme étant des organismes complexes qui sont capables de tas de choses dont on ignorait en fait le degré de complexité, puisque aujourd'hui il y a des laboratoires qui ont trouvé qu'ils étaient capables par exemple d'apprentissage. Ils ont réussi à apprendre. Donc, je veux dire, on n'est même plus dans le comportement. Alors, diapositive suivante. Et là, alors, celle-là, bon, je vais aller très vite, mais enfin, bon, ça reprend un petit peu ce qu'on a dit. Hein. Donc, la culture biblique, ensuite le concept aristotélicien de plante-objet, Darwin et Bose, donc le plante être sensible, et dans les années 2000, donc toute une cascade de découvertes à tous les niveaux, au niveau de décision, mémoire.
On retrouve enfin l'ancienne pensée.
Voilà, effectivement, on revient vers l'ancienne pensée. En fait.
On peut donc, juste revenir sur la pente objet d'Aristote.
Il faut revenir au tout début. Alors, peut-être tout à l'heure, on y reviendra, parce que là, c'est ça. Après, c'était des questions que je posais à ce moment-là, c'est qu'effectivement, ce courant de pensée, bien qu'il y ait des critiques, parce qu'il y a, l'utilisation des termes neurologiques, j'en suis pas à 100% pour. Je pense qu'il peut y avoir des confusions, et je pense que cette terminologie est très spécifique, parce que quand on parle de synapse, c'est la découverte de Sherrington en 1875 sur des neurones, et on a beaucoup de mal à s'en détacher. Même si le mécanisme est similaire ou proche, le fait d'utiliser les mêmes termes fait reculer encore aujourd'hui beaucoup de scientifiques parce qu'ils disent c'est
le problème des mots presque.
Ah oui, c'est un problème terminologique. Aujourd'hui, personne ne dit que les plantes ont un cerveau, je veux dire, ce serait absurde. Mais par contre, le fait d'utiliser ces terminologies pose encore des problèmes.
Moi, je dis intelligence biologique.
Voilà. je vais aller sur la suivante, puisque là vous avez lu. Donc le problème aujourd'hui, c'est que le vivant est intelligent. En fait, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je parle de plasticité du vivant, parce que en fait, c'est le vivant qui est intelligent. Et après, il y a différentes formes. Et c'est là qu'il faut situer les plantes par rapport aux autres formes d'intelligence.